à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeur de Khaled Mardou, bonjour. Vous écoutez à 23 pas du mystère votre émission de polar et de science-fiction mensuelle. Je vais tout de suite laisser la parole au maître des lieux, l'ami Jérôme, qui va nous dire de quoi on parle ce mois-ci.
Bienvenue à 23 pas du mystère. Nous célébrons aujourd'hui un anniversaire, celle d'une vieille dame qui a 80 ans et qui est bien connue des services de police. Et pour ça, nous avons un invité avec nous, Nicolas Verdan, que je remercie d'être avec nous. Ensuite, nos fidèles chroniqueurs sont également présents, donc Geek Patrick, qui va continuer à explorer la science-fiction américaine, avec cette fois un nouvelliste et romancier célèbre, qu'on découvrira tout à l'heure. Miss Lemon, qui est aussi avec nous, qui fait un pas vers la parité homme-femme ce mois-ci.
Enfin,
en nous parlant de l'étoffe d'une héroïne, et qui plus est pour la jeunesse. Double innovation. Et pour terminer, Gilles Poussin, dont nous diffuserons la deuxième partie de la chronique consacrée au géant de la littérature fantastique, qui est Howard Phillips Lovecraft. Voilà, c'est
Lovecraft.
Parti pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Khaled, ma radio.
Que le lecteur non prévenu se méfie. Les volumes de la série noire ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains. L'amateur d'énigmes à la Sherlock Holmes n'y trouvera pas souvent son compte, l'optimiste systématique non plus. L'esprit en est rarement conformiste. On y voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qu'ils poursuivent. Le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère. Parfois, il n'y a pas de mystère et parfois même pas de détective du tout. Mais alors, il reste de l'action, de l'angoisse, de la violence sous toutes ses formes et particulièrement les plus honnies, du tabassage et du massacre. Comme dans les bons films, les états d'âme se traduisent par des gestes et les lecteurs friands de littérature introspective devront se livrer à une gymnastique inverse. Et il y a aussi de l'amour, préférablement bestial, de la passion désordonnée, de la haine sans merci, tout sentiment qui, dans une société policière, ne sont censés plus avoir cours tout à fait exceptionnellement, mais qui sont ici monnaie courante et sont parfois exprimés dans une langue fort peu académique, mais où domine, toujours, rose ou noir, l'humour. En bref, notre but est fort simple, vous empêcher de dormir.
Mais voilà. Bon sang de bois, de quoi cause-t-elle ?
C'était un texte de Marcel Duhamel qui présentait la collection qu'il venait de créer aux éditions Gallimard en 1985. Mm-hmm. Et donc cette collection, vous l'avez reconnue, c'est la série noire.
La série noire !
L'une des plus célèbres collections de romans policiers en France. Mm-hmm. La seconde plus ancienne, encore en activité après Le Masque, qui fête cette année donc ses 80 ans. Avec un catalogue qui a dépassé les 3000 titres.
Attends, tu nous as dit 1985 et tu nous parles de 80 ans.
1945.
Ah, 45, d'accord.
Suivez Geek Patrick.
Ok.
Pour fêter cet anniversaire, nous avons un invité que nous avons le plaisir d'accueillir, Nicolas Verdan. Donc tu es journaliste, c'est ton activité principale. Tu es aussi romancier.
Oui.
Alors si mes chiffres sont exacts, tu as publié 8 romans depuis 2005.
Ça doit être exact.
Dont plusieurs ont été récompensés par des prix littéraires. Je cite en vrac le prix Bibliomédia Suisse, le prix du public de la RTS, le prix des romans, le prix du roman des romans.
Oui. Le concours des essais en Suisse, on va dire.
Voilà. Deux de tes romans, Le mur grec et La récolte des enfants, ont été repris récemment dans la collection J'ai lu, donc la célèbre collection de poche, ce qui va te permettre sans doute d'élargir ton lectorat auprès des Français. Tes romans parlent souvent de la Grèce, qui va nous permettre, dans un prochain dossier, de t'inviter à nouveau pour parler de la Grèce dans la littérature policière. Donc ça, c'est un projet plus tard. Mais pour aujourd'hui, tu es avec nous parce que tu es aussi un amateur et un collectionneur de séries noires.
Oui, c'est juste. Voilà.
Alors, je vais présenter brièvement la collection pour les infortunés qui n'auraient jamais eu affaire à la série noire, qui ne connaîtraient même pas cette collection.
Quelle tristesse.
Il en existe, a priori. Donc, elle a été lancée en 1945 par Gallimard, où elle prend la suite de plusieurs collections qui ont été publiées avant la guerre. Donc, je les cite brièvement. On a les chefs-d'œuvre du roman d'aventure en 1927. Détective, deux séries qui sont parues à partir de 1934, dans laquelle on va trouver des auteurs comme Ellery Queen et Earl Stanley Gardner, le créateur de l'avocat Perry Mason. Et une troisième collection qui s'appelle le Scarabée d'or, qui, elle, démarre en 1936. Donc ça, c'était avant la guerre. Et puis, fin 1944, Marcel Duhamel, donc, qui a été traducteur déjà pour Gallimard de quelques romans, va proposer à l'éditeur de créer une collection de romans policiers avec un créneau assez particulier qui est un nouveau genre de littérature policière et criminelle apparu aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Un genre moins axé sur l'enquête et la déduction, comme c'est le cas dans le récit d'énigmes, donc récit d'énigmes anglais mais aussi américain. Donc on l'associe souvent aux anglo-saxons, Agatha Christie, etc. Mais on a aussi des américains comme S.S. Van Dyne, Ellery Queen, Patrick Quentin, qui écrivent du roman d'énigmes à l'époque. Mais ce n'est pas du tout ce genre-là que Marcel Duhamel vise. Il vise donc un nouveau genre qui, lui, est axé plutôt sur l'action, la violence, parfois même la cruauté, voire le sadisme, qui évoque aussi la sexualité, et ça dans un cadre réaliste. Plusieurs ouvrages de cette veine du roman qu'on appelle le roman noir américain, ou le roman hard-boiled également, eh bien, ils ont été traduits déjà avant la guerre. On trouve des auteurs comme Dashiell Hammett, avec des romans comme La Clé de verre ou La Moisson rouge, un autre romancier qui s'appelle Raoul Whitfield, qui a publié Les émeraudes sanglantes, La Vierge fatale, un Donald Anderson Clark qui a écrit un roman qui s'appelle Un nommé Louis Beretti, qui raconte l'ascension d'un truand, d'un caïd, dans l'Amérique de la Prohibition. Un autre romancier, c'est William Riley Burnett, dont Le Petit César, qui est sur le même thème qu'un nommé Louis Beretti. Le Petit César, qui lui a été traduit en 1933 en français. Et donc, dans ce type de roman, eh bien, on a des personnages emblématiques qui sont les gangsters, les détectives privés durs à cuire et les femmes fatales.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est ce cadre-là que Marcel Duhamel veut faire découvrir au lecteur français. Et pour cela, donc, il fonde cette collection, la série noire, et qui a une identité assez forte, qui, pour moi, a trois éléments importants, trois éléments distinctifs. Alors, le premier, c'est son nom, la série noire, qui a été trouvé par un ami de Marcel Duhamel qui s'appelle Jacques Prévert.
Ah, bah, quand même, hein.
Qui est pas un inconnu.
Ouais.
Le deuxième élément fort de cette collection, ce sont les couvertures.
Oui.
C'est-à-dire que la série noire va choisir une couverture sobre.
Ouais.
Qui reflète aussi l'image de la maison Gallimard, qui se veut une maison de littérature assez prestigieuse, qui a déjà une collection dite blanche de littérature générale avec des couvertures blanches, et qui va trancher, donc une sobriété qui va trancher avec les autres collections policières de la même époque, qui, elles, favorisent des illustrations de couvertures assez tapageuses, on pourrait dire, qui sont là pour attirer le lecteur. Alors, il y a une collection qu'on peut citer dans ce style-là, c'est la collection Minuit des éditions Georges Ventilard, où on a un illustrateur en chef qui s'appelle Robert Dansler, qui est à la fois illustrateur, il a aussi fait de la bande dessinée, il était romancier. Et dans cette collection vont paraître notamment des romans de Léo Mallet, qu'il signait d'un pseudonyme américain, Frank Harding,
d'accord,
dans lesquels il racontait les aventures d'un reporter américain dans le style américain. Alors, la maquette de la série noire, elle est créée par une dame qui s'appelle Germaine Gibard, qui deviendra plus tard Madame Marcel Duhamel. Donc, a-t-elle couché avant de produire la couverture ou après, on ne le sait pas. Donc, sa maquette est fort simple. C'est une couverture noire avec un cadre blanc, dans un cadre blanc, et des titres en blanc et en jaune pour le nom de l'auteur et le titre du roman. Et tout cela imprimé au départ sur une couverture papier extrêmement fragile. Et il y a huit romans qui vont paraître sous cette présentation jusqu'en 1948, où là, Gallimard décide de relancer la collection de manière beaucoup plus importante, avec plus de moyens. Et on va changer un petit peu la maquette, c'est-à-dire qu'on va passer à des couvertures cartonnées plus robustes, qui seront bicolores, jaune et noir, revêtues d'une jaquette. Sur le même modèle, donc une jaquette noire avec cadre blanc, qui sera donc la jaquette classique de la série noire, employée donc entre 1948 et 1958 pour les 413 premiers numéros.
D'accord.
Donc, Nicolas, je vais faire appel à toi, puisque je sais que tu es un donc, collectionneur de séries noires, et tu as une collection un peu particulière, parce que tu t'intéresses aussi aux sources américaines des romans publiés dans la série noire, et il se trouve que les romans publiés aux États-Unis, eux n'ont pas la sobriété, les éditeurs américains n'ont pas la sobriété de Gallimard, mais eux, ils utilisent des couvertures illustrées dans leur collection. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus.
Il y a souvent une première édition en dur, donc avec une couverture relativement sage, et puis aussitôt le livre aux États-Unis, il est publié en version poche, paperback, et là on voit apparaître ces ouvrages que je collectionne. Donc pour un ouvrage de la série noire, je cherche toujours son correspondant poche américain, où on voit des pin-up en couverture. Il y a souvent un couple d'ailleurs, homme-femme. La femme est souvent en difficulté, en péril. L'homme, soit c'est un méchant, soit il la sauve. Enfin, c'est assez binaire et très coloré, avec parfois des illustrations d'ailleurs de grande qualité.
D'accord, et ça c'est difficile à trouver comme édition, ça.
C'est relativement difficile, il faut déjà, disons, l'identifier. Parfois les titres changent aussi, entre l'édition originale américaine et l'édition poche, le titre n'est pas toujours le même. Puis ensuite, bien sûr, il y a la traduction française. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer le contraste extraordinaire entre la sobriété de la noire, comme tu disais, et puis ce côté baroque, sexy du pulp américain. Pour répondre à ta question, je les traque plutôt sur Internet, parce qu'évidemment, en France et en Suisse, d'où je viens, on n'en trouve que très rarement.
Bien sûr. Et tous ne sont pas abordables au même prix, je pense. Ça dépend peut-être des auteurs.
Les éditions poche ne sont pas forcément très chères, sauf si, bien sûr, c'est des grands noms du polar. Là, certains auteurs sont très recherchés. Ouais.
D'accord, très bien. Alors, on peut préciser que Marcel Duhamel n'avait pas complètement fait l'impasse sur ses couvertures illustrées, puisqu'il a publié une collection qui s'appelle Oscar, qui est beaucoup moins connue que la série noire, collection publiée en 1952-1954 chez De Noël. Et quand on regarde les couvertures de cette collection Oscar, on s'aperçoit que ce sont justement des couvertures illustrées. Et si l'on creuse un peu, on s'aperçoit que ce sont des couvertures qu'il a récupérées dans une collection de romans de poche américains que tu dois connaître, qui est la Gold Medal Books, publiée par l'éditeur Fawcett. Et il est allé jusqu'à récupérer le logo de la collection, puisque vous le verrez sur la page du podcast, on mettra une couverture, même plusieurs couvertures, pour vous permettre de voir cela. Il a récupéré le logo, et à la place du titre américain, il a mis le nom de la collection Oscar dans un petit cachet qui est en haut de la couverture, avec le numéro du volume, tandis que l'illustration, elle, est reprise à un de ses romans de la collection Gold Medal, publié par Fawcett. Alors, il y avait l'édition Fawcett, il y en avait d'autres, Avon Books, Lion Books, Del, etc., qui étaient plus ou moins contemporains et qui publiaient le même genre de romans. Et la série noire elle-même va puiser beaucoup dans le catalogue de Gold Medal à partir des années 50, publiant pas mal de titres parus dans cette collection américaine. Voilà, on vous donnera plus de détails sur la page du podcast, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant. On va donc écouter maintenant un petit...
Petite pause musicale.
Petite musicale, avec le choix de Nicolas. On vous laisse découvrir ça.
Strange fruit. blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
À 23 pas du mystère.
Calade. Vous écoutez à 23 pas du mystère, votre émission consacrée au polar et à la science-fiction. Et les règles de base à la radio, il faut articuler. Que venons-nous d'écouter de beau, mon cher Jérôme ?
Alors, vous aurez reconnu Billie Holiday, qui vous chantait en 1939 une chanson qui s'appelle Strange Fruit, dont Nicolas va nous parler un petit peu.
Donc, Strange Fruit, le fruit étrange, et évidemment, c'est poignant, c'est dramatique, c'est le pendu sur un arbre du sud des États-Unis, donc c'est une évocation directe et brutale des lynchages par le Ku Klux Klan. Et il faut savoir que quand Billy a résisté un peu à interpréter cette chanson, qui lui a été proposée par un ami auteur-compositeur, et quand elle l'a fait à New York, c'était un scandale. Bien sûr, les gens ont refusé cette chanson, y compris dans le public noir américain d'ailleurs, parce que c'était une réalité qui leur échappait un peu à New York. Ouais. Et puis elle était rejetée par, bien sûr, par tout l'establishment qui voyait une dénonciation de quelque chose qu'il voulait pas voir. Et pour moi, c'est une chanson qui est emblématique du noir, précisément. C'est un blues, mais dans ses paroles, elle se rapproche d'auteurs de la série noire que j'aime tout particulièrement.
Très bien, effectivement, c'est une très bonne introduction. Donc, on va passer à la troisième point, temps fort de la série noire. Donc, après son nom et sa couverture, eh bien, il y a les auteurs qui sont publiés par la série noire. Donc, on l'a dit, c'est le roman noir et le roman hardboil qui est mis à l'honneur dans cette collection. Je vais citer quelques noms. Horace McCoy, avec On achève bien les chevaux. Alors, vous reconnaîtrez certains titres, puisque beaucoup ont été adaptés au cinéma.
Oui. C'est des classiques. Hein.
James Cain avec Le facteur sont toujours deux fois
bien,
et Assurance sur la mort. Richard Burnett, dont on a déjà parlé, mais qui a fait aussi Quand la ville dort, adapté par John Huston. Donc Donald Anderson Clark, David Goodis, Tiré sur le pianiste.
Ouais, c'est Truffaut qui l'a.
Qui vient chez Truffaut, ouais. Raymond Chandler, le créateur de Philip Marlowe, le détective privé de Los Angeles. Jim Thompson, fameux auteur du Texas, Le démon dans ma peau, 1275 âmes, etc. Et puis, de manière assez ironique, on a aussi dans ce roman noir américain, eh bien, deux Anglais au départ, qui sont même là au tout début de la collection, avant les Américains, qui écrivent des romans à l'américaine. Donc on a d'une part Peter Cheney, créateur de Lemmy Caution, notamment interprété à l'écran par Eddie Constantine
dans une 50, série de films,
qui va publier donc deux romans au tout début, La môme vert de gris et Cet homme est dangereux, et un autre auteur anglais, James Hadlett Chase, avec Pas d'orchidée pour Miss Blandish, qui lui va être un des piliers de la série noire pendant de nombreuses années. Il va publier, il va rester extrêmement fidèle à la série noire pendant toute sa carrière, publiant même des romans en français avant leur traduction, enfin leur publication en langue anglaise.
D'accord.
Alors, parmi cette pléthore d'auteurs qu'on n'a pas le temps d'explorer à fond dans le cadre de cette émission, Nicolas a fait une petite sélection de quelques auteurs qui lui tiennent à cœur. Et donc, je vais le laisser nous parler de ces gens-là. Un peu, je pense, dans le désordre. Je ne sais pas s'il y a un ordre de classement dans lequel tu les as mis, mais on va prendre l'ordre. Donc, le premier, c'est un auteur qui avait un nom peut-être prédestiné, puisqu'il a le même nom qu'un célèbre personnage de bande dessinée policière créé par Chester Gould. Il s'appelle Tracy, lui aussi, mais pas Dick Tracy.
C'est donc, Don Tracy.
Voilà, Don Tracy.
Alors Don Tracy, qui est, je donne chaque fois juste quand même pour vous le situer, il est dans le temps 1905-1976. Il a écrit un livre que je trouve magnifique, c'est peut-être mon préféré de toute la collection, qui s'appelle « La bête qui sommeille ». C'est le numéro 80 de la série noire, qui vient d'ailleurs d'être réédité dans les séries noires classiques. Et il traite précisément du racisme de manière frontale, ce qui est peu traité à cette époque aux États-Unis. C'est vraiment une écriture très sèche, concentrée sur l'os, à la Faulkner peut-être, mais en plus réduit, en moins lyrique. Pour moi, c'est la quintessence du noir. C'est poignant et on suit au fond la traque d'un noir qui est accusé à tort de viol. Voilà pour le premier.
Très bien, merci. Ton second auteur, c'est un auteur qui est rarement cité, qu'on a assez oublié, et je dirais même qu'il n'y a pas une bonne publicité dans par exemple, si on lit la notice dans le dictionnaire de la littérature policière de Claus Metzpiep, c'est pas un auteur qui est très qui est une bonne critique, donc c'est intéressant que tu l'aies sélectionné.
Oui, Daikin, c'est 1904-1969, lui, ses titres, vous voyez, Mort aux rouquines, Mrs. Homicide, donc vraiment, c'est vraiment des histoires, c'est l'archétype du style de nouvelle pulp, avec un flic, une rousse, un machisme exacerbé, une forte charge érotique. Ça serait impubliable de nos jours, il faut le dire. C'est peut-être pour ça que je trouve intéressant de le resituer dans le contexte. Je ne pense pas que la série noire va la rééditer dans ses classiques, comme elle le fait actuellement. On a de l'argot, de la violence, les bas-fonds new-yorkais. Et ça plaisait au lecteur de la série noire, faut le dire quand même. Ça correspondait.
Il y a eu plusieurs titres.
C'était des succès éditoriaux. Et on est chez les flics, on n'est pas chez le privé. Là, on est vraiment dans ces romans policiers. Et moi, je crois que il faut les relire pour voir que le monde du noir a changé.
Très bien, très bon conseil que vous suivrez sans doute. Prochainement. Un troisième auteur, donc toujours américain, et lui qui va nous emmener un peu dans le sud des États-Unis.
Harry Whittington. Alors, Whittington, c'est 1915-1989, Le chant de l'alligator. C'est l'ambiance du sud profond. Moi, j'aime bien ces Southern Gothic, comme on dit, ces romans qui sont mystérieux, chargés d'humidité, poisseux, à violence, pauvreté, avec des personnages qui sont souvent hallucinés, parano, qui se sentent traqués, avec, une fois de plus, des rôles féminins qui sont tout à fait limités. La femme est souvent méchante et le personnage, parmi tous les dangers qui le guettent, doit faire gaffe à cette splendide brune qui erre le long des champs de coton.
Donc attention aux alligators et aux femmes dans le sud. Alors, on peut ajouter que ce Harry Whittington, il est dans un petit groupe d'écrivains du Sud qu'on trouve dans la série noire avec quelqu'un aussi comme Charles Williams et un autre s'appelle Gil Brewer aussi, qui est de la même période également et qui ont des romans aussi situés dans le Sud des États-Unis.
Tout à fait.
Qui mériteraient d'être redécouverts. Ton choix suivant va nous ramener parmi les premiers auteurs français de la collection. Je rappelle qu'au départ, c'est uniquement des anglo-saxons. Et puis après, ça va s'ouvrir un petit peu aux auteurs français. On va trouver quelqu'un comme Terry Stewart, mais qui est un pseudonyme de Serge Arquette, un breton, qui va signer dans les premiers de la série noire. On a André Piljean, on a un Belge, Yvan Dailly. Et puis, on a un auteur qui signe également d'un pseudonyme, mais qui n'est pas inconnu chez Gallimard, puisqu'il avait déjà publié quelques romans chez eux sous son véritable nom.
Jean Maeckert, 1910-1995, et qui signe ses romans, premiers romans dans la série noire, Amila. Et là, c'est un nanar, un antimilitariste. Enfin, c'est vraiment un personnage tout à fait intéressant que Duhamel est allé amener au catalogue. Et avec son extraordinaire Jusqu'à plus soif, c'est l'univers des bouilleurs de crue. Donc, c'est de la distillerie clandestine. On est en Normandie et une institutrice débarque dans un village. Elle découvre au fond... ce trafic d'alcool entre la Normandie et Paris avec des chassés croisés, des courses-poursuites avec la police. C'est vraiment un roman social noir qui raconte au fond les ravages de l'alcoolisme dans la France de l'immédiate après-guerre.
Très bien, à noter. Donc on vous mettra les références sur notre page. Ton dernier choix, cette fois, c'est une femme qui a publié la série noire, mais qui est aussi l'auteur d'une série humoristique qui met en scène un avocat, je ne sais pas si tu veux en parler, John G. Malone à Chicago. Mais cette série a été publiée chez un autre éditeur, Ditis, dans le Detective Club.
Oui, effectivement. Alors les livres de Malone, ce n'est pas dans la série noire qu'on les trouve, c'est un avocat alcoolique, effectivement. Ouais. Mais ce qui me plaît chez Craig Rice, c'est plutôt son « Et pourtant elle tourne », un roman qui raconte l'histoire d'une femme témoin qui a assisté à un meurtre dans une grande roue sur une ville côtière de Californie. On est dans le monde des forains. Le monde des forains, c'est le monde des marginaux, c'est le monde qui échappe aux lois des rebelles. Et puis il y a un méchant flic qui fantasme sur la témoin, mais aussi un vieux flic tout aussi amoureux de cette femme. Et enfin, un truand qui est accusé du meurtre. Et tous ces trois personnages tournent en satellite autour de cette femme témoin. Et là, j'en dirai pas plus parce que l'intrigue, elle tient surtout à la fin, qui est plutôt surprenante.
Très bien, donc on ne révèle pas la fin.
Et c'était difficile de trouver une femme parmi les auteurs de la série noire, effectivement. Et Craig Rice, c'est son prénom est en fait inspiré du nom de quelqu'un de sa famille, parce que voilà, il fallait surtout pas signer
qu'un passer pour un
prénom
homme.
De femme.
D'accord. Très bien. Et bien écoute, merci pour cette sélection et ces invitations à la redécouverte de titres de la série noire. Pour conclure, on pourrait simplement mentionner qu'il y a parmi les traducteurs employés par Marcel Duhamel, il y en avait quand même quelques-uns de célèbres. On trouve par exemple Boris Vian et sa femme Michel, qui ont publié quelques titres. On trouve Maurice Tourneur, qui était cinéaste et qui est le père d'un cinéaste encore plus connu qui s'appelle Jacques Tourneur, qui a réalisé notamment des films noirs aux États-Unis. On a aussi Raymond Queneau et puis Marcel Duhamel lui-même, qui était au départ traducteur et qui a continué à traduire certains romans de la collection. Voilà, on aura encore plein de choses à vous dire sur la série noire, mais nos chroniqueurs sont là derrière nous talonnent.
Ils piaffent d'impatience.
Ils piaffent d'impatience, donc on va leur céder la parole. Merci Nicolas
pour ta participation.
Merci à vous.
Et puis on vous invite à redécouvrir tous ces romans de la série noire, qui, parmi lesquels il y a encore plein de pépites à retrouver.
À 23 pas... du mystère.
Calade.
Nous voici donc arrivés à la partie chronique de notre émission avec toujours présent, fidèle au poste, Geek Patrick pour la science-fiction. Miss Lemon pour le policier, l'étoffe d'une héroïne aujourd'hui.
Chouette.
Et puis Gilles Poussin donc pour la suite de Lovecraft, comme je vous le disais. À vous donc, chers chroniqueurs, chères chroniqueuses, on commence par Geek Patrick, si je ne me trompe pas.
La chronique de Geek Patrick.
Alors, Geek Patrick, de quel roman de SF vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, comme l'avait outrageusement spoilé Jérôme, je vais vous parler d'un auteur américain qui s'appelle Ray Bradbury. Il faut savoir, cher invité Nicolas, que je suis accusé de spoiler en permanence.
Ça, non, mais c'est vrai.
Donc je fais un peu preuve de mauvaise foi. Ray Bradbury, c'est une référence en science-fiction. D'où une petite question pour votre culture personnelle. Il est connu principalement pour quelle œuvre, l'ami Ray Bradbury ? Hein ? Vas-y, Miss Lemon.
Eh bien, moi, j'avais le souvenir des Chroniques martiennes et puis le Fahrenheit.
Bravo.
451, excusez-moi.
451, soyons précis. Pour information, Ray Bradbury avait pour coutume de dire que son seul roman de science-fiction, c'était Fahrenheit 451. Et pour lui, tous ses autres romans, c'était plutôt du fantastique. Et il le disait pour les Chroniques martiennes, par exemple. Et aussi pour le roman que je vais évoquer aujourd'hui.
Alors, quel suspense
Dit-elle de l'air convaincue. Eh bien, il s'agit d'un roman qui s'intitule « La foire des ténèbres » qui a été publié en 1962. Alors, j'en avais un souvenir à la fois flou et marquant, mais aussi un souvenir pas très cohérent. Alors, je m'explique. En fait, j'ai lu pour la première fois « La foire des ténèbres » quand j'avais 14 ans. Et à ce moment-là, ça m'a profondément marqué. On pourrait imaginer à première vue que c'est parce que les deux héros sont des jeunes garçons de 13-14 ans. Deux jeunes garçons de 13-14 ans, c'est un peu vrai. Pourtant, j'avais fini par oublier presque complètement de quoi parlait ce roman, dont me restait seulement un sentiment étrange, inquiétant, qui tournait autour du mois d'octobre. Comme si ce mois décelait une charge symbolique inquiétante. Bref, comme j'avais tout oublié, je me suis décidé à le relire vers 30 ans. Et là, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais comment j'ai pu trouver ce roman intéressant ? À la deuxième lecture, je trouvais ça insipide et inintéressant au possible.
Bon, alors pourquoi tu nous en parles aujourd'hui, finalement ?
Parce que je ne lâche jamais le morceau. Et pour en avoir le cœur net, je l'ai relu 30 ans après. Je viens de le relire.
C'est héroïque. C'est
exactement. Héroïque. Bon, alors figure-toi que à la troisième lecture... Petite information supplémentaire, le troisième protagoniste de ce roman, c'est le père d'un des jeunes ados, c'est Monsieur Holloway. C'est un homme plutôt âgé qui a eu son fils tardivement, et ce personnage est un contrepoint essentiel aux deux gamins. Et pour cette troisième lecture, en fait, c'est en lui que je me suis reconnu, ce qui m'a permis de comprendre pourquoi ce livre m'avait marqué à 14 ans, pas du tout à 30 ans, et me marque à nouveau aujourd'hui.
Bon, bref, on ne comprend rien à ta chronique. Hein.
Et j'en suis ravi, figure-toi. C'est le prix à payer pour ma bonne résolution de ce mois. Je ne vais rien spoiler. Hein, Jérôme ?
Oh, bravo.
Eh oui,
quel
en
courage.
Tout cas, je vais essayer de ne rien spoiler. Voilà, alors j'essaie de m'expliquer. L'histoire se passe dans une petite ville américaine au début des années 30. C'est totalement autobiographique pour cette dimension-là, le lieu, puisque le père de Will est largement inspiré de l'auteur et la ville est la ville natale de l'auteur. Et on est au mois d'octobre. Et dans cette petite ville, des forains vont arriver et avec eux, leur cortège de manèges, d'attractions étranges et mystérieuses. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, personne ne les connaît et puis c'est pas la saison des forains, octobre. Mais ce qu'on sait, c'est que, j'ouvre les guillemets et je cite, « en une nuit, ils vieillirent et ne purent jamais retrouver leur jeunesse d'antan. Ils, c'est les deux petits gars de 14 ans, Jim et Will. Cette foire, elle charrie l'appétit de mystère des jeunes ados à 13-14 ans. C'est comme si s'ouvrait dans le cœur et l'esprit des ados une porte vers une perspective immense, faite de mystère et d'espérance. La vie à venir apparaît comme une aventure extraordinaire et on a hâte d'entamer ce parcours. Sauf que le mystère peut aussi tourner au cauchemar. Ce qui sera le cas pour Jim et Will. Ce qu'ils vont découvrir, c'est l'envers du décor. C'est l'effroi et les perspectives terrifiantes que peut cacher l'inconnu.
Et leur père dans tout ça ?
Eh ben leur père, il passe ses nuits à la bibliothèque où il travaille. Ah. Il n'est bien que seul, la nuit, au milieu des livres, hors du tapage du monde. Et il voit avec admiration et regret à la fois son fils Will et son ami Jim vivre leur vie pleine d'énergie. Il se souvient de cette énergie de vie et il mesure à quel point il s'en est éloigné. Il est de l'autre côté, il est du côté d'Octobre. Je vais vous citer le père de Will, page 181, j'ouvre les guillemets. « Pour certains, l'automne arrive tôt et dure longtemps au long de la vie. Alors octobre suit septembre et novembre vient après octobre. Et puis au lieu de décembre et de la naissance du Christ, il n'y a pas d'étoile de Bethléem. pas de réjouissance. Pour eux, septembre revient, puis octobre, et ainsi de suite au long des ans, sans jamais d'hiver, ni de printemps, ni d'été, où tout refleurit. Pour ces êtres, l'automne est la saison normale, la seule, sans possibilité de choix au-delà. D'où viennent ces êtres ? De la poussière. Où vont-ils ? Vers la tombe. Est-ce le sang qui fait battre leurs veines ? Non, c'est le vent de la nuit.
Donc, tu étais avec les deux garçons lors de la première lecture, tu es maintenant, par ta troisième lecture, plutôt avec leur père, finalement.
C'est exactement ça. Et c'est un peu vertigineux d'avoir accompli tout ce chemin entre-temps.
Et alors, à la lecture intermédiaire, la deuxième, quand tu avais aux alentours de 30 ans, on gâchera ton âge, comment tu expliques ton ressenti à ce moment-là ? Parce que tu n'avais pas du tout accroché.
Eh bien, parce qu'à 30 ans, les emportements romantiques de la prime adolescence n'ont plus la même saveur.
Ah oui,
on suit un autre chemin, intéressant, mais plus structuré, plus balisé. Et on est encore à milieu, figure-toi, des questionnements d'octobre.
Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'y comprend rien à ton histoire. Moi, la seule chose que je comprends, c'est octobre, puisque c'est mon mois de naissance.
Voilà,
je m'inquiète un peu
bien.
Quand même.
Hein, tu peux t'inquiéter. Eh bien, j'en suis ravi si tu ne comprends rien. Mais bon, je vais expliquer un petit peu plus. Disons que la rencontre de Will et Jim avec la foire va mal se passer. Ils vont voir des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Ils vont donc être pourchassés. Et c'est à ce moment que le père de Will va se découvrir bien moins inutile et insignifiant qu'il le croyait. Je vais citer à nouveau le père de Will. J'ouvre les guillemets, page 185. Cela devait se passer quelques nuits, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, dans une grotte, auprès d'un feu. Un homme primitif a dû se réveiller pour regarder par-dessus les bûches charbonneuses, sa femme et ses enfants. Il a dû les imaginer glacés, morts, disparus à jamais. Il a alors dû sangloter. Et il a dû caresser de la main, dans la nuit, la femme qui va mourir un jour, et les enfants qui devront la suivre dans la mort. Et pendant quelques heures, le lendemain matin, il a dû se montrer plus gentil, car ils venaient de voir que, comme lui, ils avaient en eux la semence de la nuit.
Alors, la foire et les forains, c'est quoi ?
Comme je l'ai dit au début, nous sommes dans un roman fantastique. Les forains représentent... Allez, laissez-moi vous dire un dernier passage pour vous faire comprendre, page 192. C'est toujours le père de Will qui parle. Les forains sont comme tous les autres humains, mais en concentré. Un homme, une femme, au lieu de se quitter ou de s'entretuer, se harcèlent l'un l'autre une vie durant, arrachant des touffes de cheveux, arrachant des ongles, la souffrance de l'un étant pour l'autre comme une drogue grâce à laquelle la vie vaut d'être vécue. Alors les forains sentent à des kilomètres de distance les consciences torturées, et ils approchent pour se réchauffer les mains à ces souffrances.
C'est bien mystérieux finalement tout ça.
Oui, et si vous aimez ce mystère, lisez La foire des ténèbres de Ray Bradbury. J'en ai terminé.
Merci.
La chronique de Geek Patrick.
Après Geek Patrick, nous passons à la chronique de Miss Lemon, qui va nous parler d'une héroïne, pour une fois, première dans notre émission. À vous, Miss Lemon.
L'étoffe d'un héros. Moi, je suis toujours ravie de revoir cette équipe-là.
Et nous
mêmes,
donc
mais on est content de vous voir. Donc, on va traiter toujours aujourd'hui de l'aspect vestimentaire et puis du rapport textile qu'ont les héros de romans policiers et populaires. Mais tout d'abord, je vais revenir sur un point, une erreur dans la chronique précédente.
Allons bon.
Ouais. Quand j'ai présenté le détective Mario França, je ne sais pas pourquoi ma langue a fourché et j'ai dit que le Douro passait à Lisbonne, en fait, ses portos. Et mes notes étaient justes, alors déjà c'est bien. Donc je tiens à m'excuser platement auprès d'un auditeur qui a remarqué cela.
Qui
donc,
voulait te lyncher.
Voilà, et rien
tu
ne se passe
à...
Non, mais rien ne se passe à Lisbonne du tout pour Mario França. Et deuxième remarque d'une auditrice, donc j'écoute vraiment les auditeurs et les auditrices, qui a fait remarquer qu'il n'y avait qu'on parlait que de détectives masculins ou de romanciers masculins. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais me rattraper, qu'à cela ne tienne, faut que je relève le défi. Donc aujourd'hui, grâce à cette remarque pertinente, je vais vous présenter une héroïne française de surcroît et pleine de jeunesse. J'ai nommé Fantomette. Alors les garçons, vous allez adorer.
Ce qu'on vient d'entendre, c'était le générique de quoi ? D'un dessin animé ? De quoi ?
Une série télévisée
apparemment
1990, diffusée sur FR3.
Qui
s'appelait
«
F comme Fantomette ». Moi non plus, je ne suis pas sûre de vouloir... Je ne voudrais pas être déçue parce que j'aimais trop bien les livres.
Okay.
Un petit point bien sûr, c'est un auteur, donc Georges Cholet, c'est un homme et pas une femme qui aurait écrit sur Fantomette. Mais déjà, on fait une première démarche vers le féminin. Et la prochaine fois, je vais essayer de trouver quand même auteur et héroïne féminin. Ce sera bien.
Ouh, ça, c'est de l'ambition.
N'est-ce pas ? Donc, Fantomette, je vais vous le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est la Bibliothèque Rose, donc des histoires destinées à la lecture de la jeunesse entre 8 et 12 ans.
Ouais.
Alors, Georges Cholet, dans une interview, a indiqué qu'il proportionnait son lectorat à un tiers de garçons quand même, ce qui est pas mal. Hein. Mmh. Et donc, vous pourrez retrouver l'interview sur un lien sur le podcast. Ça peut s'expliquer, en fait, parce que c'est un roman d'aventure, donc il peut être multipublic, en fait.
Ah ouais, voilà. Tout à fait.
Et puis, Georges Cholet, en fait, a constaté au début des années 60 que les filles sont de grandes lectrices, mais qu'en fait, il y a peu d'héroïnes pour répondre aux besoins d'identification à des personnages de leur temps. Parce que dans la Bibliothèque Rose, on retrouve des fillettes de la comtesse de Ségur, ouais, donc qui datent un petit peu.
Oui, et puis, c'est des rôles féminins très cadrés. Quoi.
Voilà, c'est peu représentatif d'éducation des années 60 et de l'émancipation des filles qui est en train de se passer
quand même.
Donc Georges Cholet revendique un petit peu son intention d'une jeune fille émancipée. Alors, pour décrire l'aspect vestimentaire, puisque c'est mon objet de Fantomette...
C'est ton job.
Ouais, j'ai choisi un toit au clair de lune parce que c'est son poste d'observation.
Ouais,
voilà.
Tout à fait.
Donc, nous trouvons sur ce toit une tenue justicière, évidemment. Donc, tout en noir au début de sa carrière. Et puis, finalement, avec l'aide des illustratrices, sa tenue va évoluer avec les trois couleurs qu'on connaît, jaune, rouge et puis le noir. Donc, juste au corps jaune, ballerine rouge... Du noir pour des collants, un bonnet avec un pompon qui sert d'expression mille pompons, parce qu'on n'avait pas le droit à l'époque de dire zut.
Exact. Ouais,
voilà. Et puis un masque, un loup plus exactement, et puis une cape noire doublée de rouge avec une broche en forme de F qui est creuse et dans lequel est logée une petite lime qui permet de couper les cordes.
Trop
forte, Fantomette. Et puis elle a un petit poignard ou stylet florentin qui est un cadeau qui est attaché à sa taille. Et ce que j'adore, moi, elle a un cyclomoteur. Donc c'est une mobilette qui va arpenter la nuit la bonne ville de Framboisy, qui est un lieu d'une très grande francitude des années 60. Voilà. Ce qu'on ne va pas trouver dans les récits de Fantomette, ce sont des parents, parce qu'en fait, ils seraient freins à sa carrière de justicière.
Vrai,
on lui dirait, va te coucher, qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Et puis les adultes qui ont de la jugeote, ça, il n'y en a pas trop. On lit des discours du maire qui sont absolument des gros fous rires, parce que ça ne veut rien dire, le pipeau à fond. Et puis les hors-la loi sont en benêt quand même.
Ouais,
la police
et
les gens de la ville qui devraient veiller à l'ordre, en tout cas au développement de la jeunesse, sont complètement HS. Quoi. Et donc, on va noter qu'hormis un journaliste qui s'appelle Œil de Lynx, qui est de Fantomette dans ses aventures et connaît sa véritable identité, il n'y en a pas beaucoup, les autres adultes quand même sont ultra stéréotypés et surtout, ils ne savent absolument pas qui peut être Fantomette, ce qui est quand même absolument étonnant. Je ne dirais pas qui c'est, je ne vais pas spoiler.
Suspense.
Et en fait, ça me fait vraiment penser à Zorro, parce que c'est justicier la nuit en noir,
c'est ça,
et puis le manque de bon sens de la population, personne ne sait que c'est Diego, mais bon, ça c'est comme ça. Donc Fantomette, elle est à la fois justicière, aventurière, espionne, enquêtrice la nuit. Et le jour, c'est une jeune fille d'environ 12 ans. Mais alors, je ne suis pas très sûre parce qu'elle va quand même dans une école primaire parce qu'elle est une institutrice.
Donc tout ça
en conduisant le cyclomoteur, c'est super émancipé là.
Ouais.
Et puis, en fait, malgré les paradoxes, parce que bon, quand on lit jeunesse, ce n'est pas très grave, on se laisse emporter dans son univers. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle ne vieillit jamais. Ça, c'est super. Et en fait, on comprend vite que sa motivation, c'est quand même l'élucidation des énigmes. Et pour ça, c'est bien l'émancipation de l'époque, la transgression, je sors la nuit, je vais sur les toits comme un chat. Et c'est un peu ça qui l'anime. Sinon, elle est quand même tout autour et assez vide, puisque les adultes sont vraiment vides. Et puis, elle n'a pas de famille, donc elle est toute seule, elle fait son petit café, tout ça.
Elle a deux copines quand même.
Elle a deux copines, ouais, mais elle n'a pas de personnalité en elle-même. Et en fait, elle ne donne pas non plus d'émotions personnelles au public. Il y a des énigmes, etc.
C'est
le cerveau de l'affaire. Mais elle n'est pas triste de ne pas avoir d'adultes autour d'elle, de personnes qui la gèrent. On ne peut pas dire qu'elle se plaigne de ça. Et les traits de personnalité, c'est plutôt ses amies Ficelle et Boulotte qui occupent le terrain, en fait. C'est plutôt elles qui sont vraiment décrites. Alors, Ficelle et Boulotte, je ne sais pas si aujourd'hui ce serait effectivement correct.
Mais bon,
c'est un petit peu. Ça serait sûrement réécrit. Bref. Alors, Fantomette, elle est le cogite. Elle résout les mystères, les forfaits. Et quand on la remercie, elle, d'une super simplicité, elle répond : je vais citer. Ne me remerciez pas, je ne fais que mon devoir.
Trop bien.
Un peu comme à l'école, elle fait ses devoirs, parce qu'elle est hyper bonne à l'école. Mmh. Et puis, il lui arrive quand même, elle s'est fait, moi j'en ai lu un, elle s'est fait capturer par ces brigands, les qui sont nigauds. Donc c'est l'équipe du Furet, avec Bulldozer et le prince d'Alpaga.
Le prince d'Alpaga, je m'en rappelais.
Voilà, qui cherche toujours, là, qui se lime les ongles et tout. Mmh. Et donc, ils veulent sans arrêt se venger d'elle, parce qu'elle les attrape, elle les apporte à la police, voilà, sur un plateau, puis ils trouvent moyen de s'échapper le jour du carnaval. Enfin, c'est vraiment, elle n'arrête pas de les capturer. Et donc, un jour, ils finissent par l'attacher, dans notamment Fantômette au carnaval, dont je vais citer. Ils lui disent « Regardez-moi, cette jeunesse cervelée, ça se déguise en troubadour du Moyen-Âge. » Ça veut jouer les redresseurs de tort, les justicières, les Don Quichotte, et ça se retrouve par terre, ficelé comme une andouille de vire. Vous voyez la francitude.
Ça, c'est de la référence.
C'est la bonne mine de la Fantômette. Mais pour lui rendre justice, c'est quand même, dans toutes ces situations qui sont plus ou moins dangereuses, contrairement à des héros plus tardifs, elle n'a pas de super pouvoir, il faut dire. Elle n'a aucun gadget à part sa petite broche.
Ouais,
là,
tout
voilà.
À fait, ouais.
Elle n'a pas d'assistant comme Robin pour Batman,
non,
par exemple.
Jugeote, hein,
et tout. Elle n'a pas d'autres héroïnes comme les super-héros qui sont un petit groupe là, qui joue au malin. Et donc, finalement, elle, elle va se débrouiller toute seule. Et c'est quand même son cerveau. Bon, elle est sportive et tout, mais c'est quand même l'énigme un petit peu cérébrale. Voilà. Donc, pour moi, en conclusion, Fantômette, elle a l'étoffe d'une héroïne qui est très soyeuse, puisque c'est mon thème, avec tous ses petits costumes et tout. Et finalement, elle reste rugueuse dans ses aventures parce qu'elle ne se laisse pas faire. Elle déjoue les pièges des brigands, elle les capture. Elle se bat aussi contre des adultes, il faut dire. Bulldozer, comme son indique, c'est un gros malabar. Et finalement, elle est avec des adultes malfaisants dans une ville qui est complètement inefficace et qui compte sur sa bienveillance infaillible. Ils se disent « Oh, mais la police, elle dit « Oh, mais Fantômette va nous aider ». C'est assez fort. Et finalement, j'ai relu quelques aventures. Bon, c'est un peu comme toi, je ne vous dis pas le nombre d'années entre la première lecture et maintenant. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est l'odeur du papier jaune, c'est toujours l'odeur de l'impression. Là, j'ai retrouvé exactement la même chose. Et puis, je n'ai pas été déçue, j'avais un petit peu peur. Et en dernière minute, Jérôme m'a indiqué qu'il y avait les 4 premières aventures de Fantômette ont été republiées, mais cette fois-ci en bibliothèque verte.
Ah bon ?
Voilà.
Ah, d'accord. Très
bien. Eh bien, voilà, très bientôt et merci à tous.
Merci, Miss Lemon.
Pour finir ces chroniques, nous retrouvons Gilles Poussin qui va... Donc je vous rappelle que le mois dernier, nous avons commencé à diffuser la chronique de Gilles consacrée à Howard Phillips Lovecraft. Mm-hmm. Il nous avait présenté sa biographie, la biographie de l'auteur. Dans cette deuxième partie, il va terminer la biographie et nous parler de l'influence de Lovecraft sur les différents courants artistiques qui sont venus derrière lui. Voilà, encore l'actualité de Lovecraft jusqu'au XXIe siècle.
Le poussin s'en mêle.
Donc, il se met vraiment à écrire de la fiction de manière continue dans les petits de sa vie, entre 1927 et 1937. Et c'est là qu'il se fait un peu connaître, en tout cas par les amateurs, donc toujours dans Weird Tales, pour la plupart de ses productions, avec des nouvelles comme Les Montagnes Hallucinées. Et puis alors, quelque chose d'amusant, c'est qu'il prête sa plume à quelques auteurs qui n'écrivent pas spécialement bien, notamment, ce qui est amusant, donc, c'est il écrit pour Harry Houdini. Houdini, qui est un illusionniste bien connu à l'époque, et il lui écrit un texte qui s'appelle Prisonnier des pharaons. Quoi. Mais bon, il n'arrive pas à gagner d'argent, il déménage encore avec sa dernière tante dans un plus petit appartement. Et puis en 36, il a été très affecté par le suicide de Robert Howard, avec qui il entretenait une relation épistolaire très suivie, même si il n'était pas toujours d'accord sur la manière de voir les choses. Et donc, ça l'a beaucoup chagriné. Et puis, surtout, il commence à être malade parce qu'il se nourrit très mal, quoi. Depuis des années, il se nourrit de bonbons, de tas de... On peut pas dire qu'il ait quelque chose d'équilibré au niveau de son alimentation. Résultat des courses, on lui découvre un cancer de l'intestin et il décède le 15 mars 1937. Donc voilà, c'était pour l'aspect biographique de H.P. Lovecraft. Alors, Évidemment, à partir de cette courte biographie que je vous ai dite, on peut penser aussi par rapport à ses influences. Alors, je ne vais pas vous inonder de noms, mais vous avez des gens comme Edgar Poe, Laure du Sany, Edgar Rice Burroughs. Il le disait lui-même. Hein. D'ailleurs, il a écrit un livre sur les gens qui l'ont influencé, un livre qui s'appelle « Épouvante et surnaturel en littérature », qui est tout à fait intéressant. Et dans ses œuvres à lui, outre Dagon, que je vous ai déjà cité, on peut noter « La couleur tombée du ciel » et puis « L'appel de Cthulhu ». Alors, « L'appel de Cthulhu », c'est intéressant parce que c'est là qu'il commence à créer sa cosmogonie, on va dire. Avec cette espèce de bestiole, on ne sait pas trop, hein, c'est ça qui est très fort chez Lovecraft, c'est une description, mais ça ne va jamais complètement dans la totalité, ce qui permet d'ailleurs au lecteur de faire travailler son imagination. Outre ce Cthulhu, il y a aussi le cauchemar d'Innsmouth qui se passe au bord de la mer, et puis ce qui est intéressant avec Lovecraft, c'est qu'il nage dans trois genres. Alors, des fois, ça peut être en même temps, des fois séparé. Si vous voulez, c'est à la fois un auteur fantastique, un auteur d'horreur et un auteur de science-fiction. Et ça n'existait pas avant lui. Ce qui va donner cette espèce d'ampleur après sa mort, parce qu'il n'aura pas été célébré ni connu durant son vivant, malheureusement. Et il a un ami un peu qui va perpétuer son travail, qui s'appelle Auguste Derleth. Ce cher Auguste, qui était beaucoup plus jeune hein, que Lovecraft, voit une dévotion comme un maître à un maître vis-à-vis de H.P. Lovecraft. Et Derleth, il va créer une maison d'édition, publier les textes de Lovecraft. Et puis, là où c'est plus embêtant, c'est qu'il va se mettre à, on dirait aujourd'hui, tripatouiller des textes, enfin en tout cas les terminer, évidemment sans l'accord de Lovecraft, puisqu'il est décédé. Et lui, Derleth, c'était quelqu'un de très croyant, alors il a induit des choses qui n'existaient pas à l'origine chez Lovecraft, c'est-à-dire notamment le côté manichéiste de l'opposition du bien et du mal. Pour Lovecraft, c'était réglé, hein, c'était le mal qui gagnait et point barre, quoi. Donc comme ça, on savait où on était. Et alors, ce que je vous recommande, c'est vraiment la biographie, une espèce de somme incroyable d'un Américain qui s'appelle St. Joshi, j'arrive jamais à bien le dire, et ça s'appelle « Lovecraft, je suis Providence », sorti chez Actua SF en 2019, français en tout cas. Et donc, Joshi reprend vraiment toute la vie de Lovecraft et toute son œuvre. Et c'est un livre passionnant. Alors, sinon, les éditeurs actuels trouvaient la somme de son œuvre à Lovecraft chez Bragelonne. Ils ont vraiment quasiment tout réédité, en tout cas du domaine de la fiction. Et puis, évidemment, il y a les deux métal hurlants consacrés à Lovecraft. Donc, à la fois, vous avez des éléments bande dessinée, puisqu'on est chez Métal Hurlant, mais également des éléments biographiques et bibliographiques très, très passionnants. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux numéros, puisque le premier était sorti en 1978 et le second est de 2024. Donc, ce qui permet un peu de comparer l'évolution et les connaissances qu'on a sur Lovecraft depuis 78. En musique, il a influencé, il y avait carrément un groupe de Chicago, un groupe psychédélique en 67 qui s'appelait H.P. Lovecraft. Et puis en métal, évidemment, vous avez des groupes comme Metallica et puis tout ce qu'on appelait le mouvement death metal, black metal. Après, pour revenir à l'œuvre proprement dite et peut-être finir là-dessus, on peut lire d'une manière, comment dire, soit chronologique, c'est possible, soit on peut lire par thème. Et c'est vrai que vous avez par exemple le cycle des grands anciens, où là c'est le côté, les créatures primordiales qui sont évidemment épouvantables et terrifiantes. Et vous avez des nouvelles comme la couleur tombée du ciel, dans l'abîme du temps, le rôdeur devant le seuil. Et puis après, on peut aussi se diriger vers le Necronomicon, qui est un ouvrage totalement fictif, qui a été inventé donc part. Et le texte est attribué à un arabe fou qui s'appelait soi-disant Abdul al-Azfred. Mais évidemment, tout ça est pure invention, je vous le dis. Et puis alors surtout, je vous recommande l'ouvrage absolument magnifique qui a été réédité en 2024 aux éditions Barbier, qui s'appelle « Démons et merveilles », qui reprend quatre nouvelles de Lovecraft et qui sont illustrées par Philippe Courrier. Et ce qui m'amène à vous parler justement des dessinateurs qui ont été influencés par Lovecraft. Et si, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Lovecraft, si vous voulez avoir un aperçu visuel, je vous recommande de regarder les dessins de Philippe Drouillet. Et puis également H.R. Giger, ou Giger, comme vous préférez, donc l'homme qui a inventé Alien, en tout cas la bête épouvantable qu'on voit dans le premier Alien. C'est des gens qui, à la fois, avaient évidemment leur univers propre, mais ont été très marqués par ce qu'ils ont lu de Lovecraft. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Peut-être aussi vous citer un mangaka qui s'appelle Gutanabe, qui depuis une dizaine d'années, il a adapté des tas de nouvelles de Lovecraft, et c'est paru dans des très beaux volumes, donc adaptés en bande dessinée. Et puis en cinéma, vous avez eu Roger Corman qui, dès le début des années 60, avait fait quelques adaptations. Et John Carpenter aussi s'est beaucoup inspiré de l'univers de Lovecraft. Stuart Gordon, hein, qui lui a fait un film vraiment totalement Lovecraftien qui s'appelle Réanimateur. Guillermo del Toro, Dan O'Bannon, évidemment scénariste d'Alien. Et enfin, en bande dessinée, vous avez Hellboy de Mike Mignola, qui vraiment est complètement sous influence de Lovecraft. Voilà, ben j'espère que je vous ai donné envie de lire cet auteur qui, le temps passant, devient de plus en plus important. On le retrouve aussi dans des jeux vidéo et il a une influence mondiale. Et alors que malheureusement, lui est mort plutôt dans la misère et plutôt seul. Merci à tous et à toutes.
Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, il est temps de nous quitter. Ne manquez pas de consulter notre page web sur le site de radio-calade.fr.
À 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère. Vous retrouverez donc toutes les références des œuvres qu'on a citées aujourd'hui, des informations supplémentaires qu'on n'a pas eu le temps de glisser dans le cadre de l'émission. Et puis, vous pouvez réécouter l'émission autant de fois que vous le souhaiterez. On se retrouve le mois prochain, en juillet, avec nos chroniqueurs préférés. Donc Geek Patrick qui nous parlera de Haruki Murakami et de la cité aux murs incertains.
Tout à fait.
Miss Lemon nous emmènera faire du surf du côté de la Californie. Et Gilles Poussin évoquera Alex Raymond, le créateur, un dessinateur, créateur des séries Flash Gordon et Rip Kirby. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.